Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous. Il est l'auteur d'une BD sur Sébastien Destremau qui a marqué le dernier Vendée Globe. Le navigateur avait marqué les esprits sur son bateau comme un seul homme. Serge Finot est notre invité dans son magazine. Serge, comment est née cette idée?
Sébastien Destremau, on s'est rencontré en fait sur un salon, sur le salon du livre de Normoutier, où il venait d'arriver quasiment du Vendée Globe, hein, c'était au mois de juin 2017, donc il venait de sortir son bouquin. Et moi, j'avais été invité sur ce salon, et voilà, donc j'ai acheté son bouquin, je l'ai lu en diagonale, et puis ça s'est fait comme ça, quoi.
Un reportage sur Martin Louchard, 17 ans, le plus jeune skipper engagé sur la Transat Jacques Vabre, qui s'élance prochainement du Havre.
C'est un premier rêve qui se réalise, cette Transat, j'y vais pour voir, hein, clairement. Depuis que je suis tout petit, j'avais envie de faire de la course au large, donc c'est un bon premier pas, je pense.
Gwendal Jaffry vous racontera l'histoire des tatouages des marins.
Le tatouage qu'on découvre dès le néolithique et qui connaît aujourd'hui une nouvelle vogue.
Et Jean-Michel Guénier de surf pendant les vacances de la Toussaint.
Et oui, parce que les vacances de la Toussaint, c'est bientôt, et puis c'est une activité à laquelle on ne pense pas toujours. Eh bien, détrompez-vous, les écoles de surf sont sur le pont pour nous faire découvrir le surf, ou bien sûr pour tous ceux qui sont déjà des pratiquants. C'est un moment privilégié.
A tout à l'heure, messieurs.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Serge Finot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le dessinateur et scénariste de cette BD, Seul au monde, qui retrace l'aventure de Sébastien Destremau lors de la dernière édition du Vendée Globe en 2016-2017. On rappelle que le navigateur a terminé dernier de cette 8e édition, en 18e position, 50 jours après le vainqueur Armel Lecléache. Serge, c'est plus que l'aventure, ce tour du monde en solitaire et sans escale de Sébastien Destremau que vous racontez dans cette bande dessinée.
Ben c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que raconter une course d'un gars tout seul, ouais, ça peut être bien, mais là c'était doublé effectivement de flashbacks et de retours sur sa vie à lui, sur son enfance, sur son adolescence un peu chaotique, sur sa vie de jeune adulte. Dans cette histoire, il y a du Marius quoi, c'est le gars qui peut pas s'empêcher, on le verra dans les tomes suivants, hein, mais quand il se marie, il peut pas s'empêcher de retourner en mer parce qu'il est attiré par la mer et voilà. Et du coup, effectivement, c'est son enfance, c'est son adolescence qui a conditionné le fait de se lancer comme ça, parce qu'il faut savoir que Sébastien Destremau, c'est quelqu'un qui avait jamais fait de course en solitaire auparavant, hein. C'était pas du tout son métier c'était régatier, c'est-à-dire qu'il courait sur 2 heures dans une journée en équipe de 12, de 13, de 14, et chacun avait un rôle bien déterminé, et là il est parti sur un coup de tête quasiment faire la course la plus dure au monde, c'est-à-dire le tour du monde sans escale et sans assistance, et ce qui est hallucinant, c'est que Sébastien, c'est un gars qui a le vertige, qui a peur du noir, qui a peur de l'eau profonde, et enfin quasiment, presque, j'exagère, mais quasiment il sait pas nager quoi. Donc du coup, et le mec il part pour 4 mois de tour du monde sur un bateau qu'il a acheté d'occasion sur internet, qu'il a été récupéré en Afrique du Sud. Enfin, c'est tout ça, voilà, je trouvais qu'il y avait des trucs passionnants à raconter et chargés aussi d'émotions par rapport à des histoires plus personnelles, par rapport à son enfance et à son adolescence.
Ce bateau qu'il a fallu chercher en Afrique du Sud.
Ouais, c'est ça. Ben, il a vendu, il n'avait pas un gros budget. Hein, c'est pour ça qu'il y avait deux. Dans la course en elle-même, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des gens qui veulent la gagner, cette course, quoi, et il y a la catégorie des gens qui veulent terminer. Parce que sur, il faut savoir qu'il a fini 18e et dernier de l'épreuve, mais il y avait 29 candidats au départ, donc il y en a 11 qui ont abandonné en cours de route. Et déjà arrivé, c'était pour lui, c'était déjà une victoire. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait, c'était arriver. Et effectivement, il n'avait pas un budget faramineux, puisque chez nous, dans le Sud-Est, Vendée Globe, c'est pas un truc qui est très connu, quoi. Vendée Globe, ça s'écrit en 3 mots, hein. C'est Vent, D-E-S, Globe. Voilà, ils savent pas que Vendée c'est le département et que le globe ça veut dire le tour du monde quoi. Donc ils partaient de loin effectivement pour trouver des sponsors et des partenaires, ils partaient de très très loin et du coup il a fallu qu'ils trouvent des solutions, et les solutions ça a été de vendre sa voiture, ça a été de vendre des parts de sa maison en Australie, puisqu'il avait il habitait en Australie à l'époque, en tout cas il lui restait des parts dans sa maison, et puis après trouver des partenaires et des sponsors et trouver des, voilà, des bricolés avec des bouts de ficelle. Et il a acheté un bateau. Il avait un budget de 400 000 euros, quoi. Ce qui est ridicule par rapport aux gens comme le Cléache ou les Cadors de la course. Et il a trouvé un bateau pour 100 000 euros qu'il est allé chercher en Afrique du Sud tout seul et qu'il a ramené à Toulon avec au passage les mésaventures. Bon, ils se sont fait courser par des pirates au large des côtes de l'Angola. Enfin voilà, des trucs hallucinants. Hein. Après c'est un bateau. Moi je suis monté sur son bateau. C'est quasi, j'exagère, mais c'est quasi un bateau en carton avec des bouts de sparadrap ou des bouts de chewing-gum pour boucher les trous, quoi. Donc son exploit, il est d'autant plus remarquable que c'est un bateau, c'est quasi le bateau de Monsieur Tout le Monde, quoi.
Extrait de ZZ Top, La Grange, le choix musical de notre invité que l'on retrouve dans un instant. Ça sera juste après Gwenda Jaffry, le rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, qui va nous parler de l'histoire des tatouages des marins.
Bienvenue à bord.
Gwendal, bonjour.
Bonjour.
Une histoire qui remonte à très loin.
Effectivement, puisqu'on a retrouvé assez récemment les restes d'un chasseur du Néolithique qui était tatoué. On a aussi vu que sur les momies égyptiennes, il y avait des tatouages. Alors, plus récemment, civilisation gréco-romaine, on a le stigma qui a donné stigmate, qui est une marque sur le front et qui permet de reconnaître les esclaves et les prisonniers. Peut-être d'ailleurs que le tatouage dans les prisons, chez les taulards comme on dit, le tatouage qui a fait florès dans cet univers vient de là. Ce n'est pas impossible. Au Moyen-Âge, le tatouage c'est aussi une marque de corporation. Par exemple, les charpentiers se tatouent une scie, les architectes se tatouent un compas, etc. Mais en 787, en Europe, le pape Adrien Ier décide que le tatouage, c'est terminé. Le tatouage va disparaître. On va sauter 1000 ans. 1771, Cook, bien connu, revient avec son Endeavour en Angleterre. Deux ans plus tôt, il était dans le Pacifique et là, les marins d'Endeavour ont découvert le tatouage à la polynésienne. D'une part, ils se sont fait tatouer, donc les londoniens vont pouvoir découvrir ces tatouages et d'autre part, ils ont appris la technique. Alors le tatouage, c'est très pratique. D'une part, c'est un souvenir qui ne se perd pas, contrairement à un objet qu'on peut ramener. C'est aussi une occupation à bord. Quand on s'ennuie, eh ben, on se tatoue. Et puis le tatouage, c'est aussi le récit de sa vie qu'on a à même la peau. C'est ainsi que va naître le mythe des îles, exotisme, érotisme également. Et puis avec une technique qu'on va faire venir en Europe. Alors la technique des Polynésiens, en fait, c'est avec un petit coquillage qu'on trempe dans de la couleur. Alors la couleur, elle peut venir du charbon, par exemple, ou de plantes, etc. Et ce coquillage, il est taillé en pointe et on tapote dessus avec un petit marteau. Le fait de tapoter se dit en polynésien « tato », qui a donné le mot « tatou » en anglais. Avant Cook, on a aussi des Français qui sont arrivés là-bas, l'équipage de Bougainville, qui a découvert aussi cette technique. Ensuite de ça, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a ramené des hommes tatoués ou alors on s'est fait énormément tatouer en Polynésie, dans le Pacifique, pour quelque part faire du cirque, faire animal de foire, bête de foire sur les marchés européens et tout le monde était fasciné de voir ces corps tatoués. Petit à petit, la technique a évolué. Petit à petit aussi, on s'est orienté vers d'autres univers comme l'Asie où on a vu que les hommes également étaient tatoués. 1846, on est plus proche de nous, ouverture du premier studio de tatouage à Manhattan par un immigré allemand. Avantage, l'hygiène est meilleure. 1891, invention du dermographe qu'on connaît toujours aujourd'hui pour tatouer les gens. 1913, on estime que 60% des marins américains sont tatoués. Dans les années 20, on découvre les modèles tout faits. Et puis, le tatouage va tomber un peu en désuétude jusqu'à nos jours où désormais, on a une grande partie de la population qui est tatouée. Mais c'est une autre histoire, cette fois-ci davantage sociologique.
Merci, Gwendal Jaffry.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Suite de notre entretien avec notre invité, le dessinateur Serge Finot, également scénariste de cette bande dessinée Seul au monde, qui raconte l'aventure du Vendée Globe de Sébastien Destremaux lors de la dernière édition 2016-2017, la huitième. Serge, autre mésaventure que j'aimerais qu'on aborde, c'est également ce mât cassé quelques semaines avant le départ du Vendée Globe.
Alors il a cassé deux fois, il a cassé une fois avant le départ. Du coup, un mât, je crois que c'est 100 000 euros. Hein. Donc du coup, il a fallu se dépatouiller pour trouver le truc. Et effectivement, il a trouvé ça aussi sur Internet. Alors là, c'est pareil, c'est un truc hallucinant quoi, qui arrive qu'à lui. Hein. Apparemment, c'était des Hongrois qui vendait ce mât. Alors il savait pas trop d'où il sortait, donc il a affrété un convoi exceptionnel. Il est allé en voiture lui récupérer le truc. Il a traversé la France puisque c'était à Caen, je crois, si je me souviens bien. Et il m'a raconté que c'était effectivement, ça faisait glauque quoi. C'était dans une espèce de zone artisanale au petit matin avec les camionnettes avec des prostituées et puis les gars qui sont pas descendus de la voiture qui ont pris l'argent en liquide dans l'enveloppe et qui, une fois qu'ils ont compté, qu'il y avait le compte, ils se sont aperçus qu'il y avait le compte, ils ont dit ben, le mât il est là-bas posé contre le truc quoi. Effectivement, il a pris le mât sur le dos, il l'a mis sur le camion et puis il est redescendu à Toulon avec le mât quoi. Mais voilà, et il a jamais su, il sait pas qui c'était ces gars, d'où ils sortaient ce mât et ainsi de suite quoi. Donc il y avait un côté un peu polar quoi. Alors moi j'ai accentué le truc dans l'album en me faisant une espèce d'ambiance, mais après il m'a dit que j'avais pas trop exagéré finalement. Que c'était vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça avec le truc glauque, la zone un peu on n'a pas envie d'aller, et puis les prostituées à tous les coins de camionnette et les mecs dans la voiture avec des mines patibulaires, enfin voilà, le truc de gangster quoi.
Serge Finot, ce n'est pas votre première BD maritime. Qu'est-ce qui vous attire dans cet univers ?
Alors je sais pas. Après moi j'aime la mer. Je me l'explique pas. Hein. J'ai pas de d'explication. J'ai jamais analysé ça en fait. Alors, effectivement, je suis né à Toulon. J'ai longtemps vécu entre les plages et le port. Donc forcément ça laisse des traces. Après moi je suis pas un navigateur, hein, j'ai pas de bateau, j'ai pas de permis, j'y connais rien en plus en technique, ce qui a été plutôt un avantage du coup pour raconter l'histoire, parce que je me suis mis à la portée des gens qui sont pas forcément des voileux et qui ont envie de lire une histoire sans être assommés de termes techniques et tout ça. Donc parce que j'aime bien, parce que la mer c'est fascinant, parce que cette espèce d'élément liquide qui bouge dans tous les sens et sur lesquels on met des coquilles de noix en bois, en plastique, en polystyrène des fois, voilà, c'est un truc fascinant. Et puis toutes les mers sont différentes, il y a la Méditerranée différente de l'Atlantique par rapport à l'océan Indien c'est encore autre chose, enfin voilà, c'est moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné et j'ai toujours pas compris d'ailleurs le mécanisme des vagues. La mer c'est un truc qui est très très difficile à retranscrire graphiquement parce que si elle est ratée en fait ça fait de suite mer de carton pâte et ça fait faux, donc c'est pour ça que du coup que j'ai choisi l'option de faire mes propres couleurs, parce que je voulais pas laisser à quelqu'un la possibilité de la rater ou de la réussir. Donc voilà, moi je savais comment la faire à peu près, donc voilà, j'ai décidé de travailler comme ça pour cette raison aussi. Voilà, mais effectivement ouais, j'ai fait pas mal de trucs qui se passaient sur la mer parce que je pense qu'aujourd'hui les gens ont besoin de s'évader et que la mer ben, c'est l'élément type pour l'évasion quoi. Il y a toujours eu des films sur les pirates, sur les bateaux, tout ça, c'est un truc, voilà, on est tout seul sur un bateau, au milieu de la mer, au milieu de nulle part, on n'a pas de réseau, on n'a pas de téléphone portable, on n'a rien, voilà, c'est le truc pour s'évader, quoi.
Seul au monde, une très belle bande dessinée par Serge Finot, c'est aux éditions Glénat, avec ce premier tome, Chanteloube, sorti fin août. Merci beaucoup, Serge Finot.
Merci.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Le départ le 27 octobre prochain du Havre de la Transat Jacques Vabre, Transat en double avec 60 bateaux qui vont mettre le cap sur Salvador de Bahia au Brésil. Le plus jeune engagé s'appelle Martin Louchard, il a 17 ans. Il sera associé à Frédéric Duchemin, 54 ans. Les deux Normands vont se lancer sur un bateau aux couleurs de la Manche, un classe 40. Lucie Tuilet les a suivis lors de leur entraînement.
À la barre du bateau Attitude Manche, Martin Louchard, un Grandvillais de 17 ans, passionné de voile depuis l'âge de 10 ans et qui va donc s'élancer à la fin du mois dans sa première grande course au large.
C'est un premier rêve qui se réalise, cette Transat, j'y vais pour voir, clairement. Depuis que je suis tout petit, j'ai envie de faire de la course au large, donc c'est un bon premier pas, je pense. Avec le Vendée Globe, c'est une des seules courses qui passe le poteau noir, le Route du Rhum, on le fait pas. Donc non, c'est une course qui fait encore rêver.
Il sera épaulé par le Saint-Lois Frédéric Duchemin, qu'il a découvert il y a 3 ans et qui depuis l'entraîne. L'année dernière, il lui a fait une promesse, faire un jour une grande course ensemble.
3 mois après, il me rappelle, il me dit « Il y a la Jacques Vabre, tu m'as dit qu'on ferait une grande course ?» Je dis « Ouais Martin, mais quand même, c'est un gros morceau !» Et puis on a commencé à frapper aux portes, c'est absolument incroyable. Que Martin et moi, qui ne soyons pas connus dans le monde de la voile, pour ne faire que des régates locales, puissions arriver comme ça à faire une grande course, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Et pour promouvoir le département, quoi de mieux qu'un jeune ambassadeur si dynamique, selon Patrice Pilet, le président de Latitude Manche, l'agence d'attractivité.
L'intérêt, c'est de renforcer le sentiment de fierté des habitants, et puis en même temps, communiquer sur le dynamisme du territoire.
La Manche a décidé de sponsoriser le projet à hauteur de 60 000 euros et elle ambitionne d'accompagner le jeune skipper sur plusieurs années à l'occasion d'autres courses. Martin Louchard espère s'élancer sur la Route du Rhum en 2022 et rêve de faire le Vendée Globe.
Jean-Michel Guigné va maintenant nous parler de surf à la Toussaint.
Bienvenue à bord.
Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Alors, de pratique du surf, mais à la Toussaint.
À la Toussaint, c'est vrai, c'est pas parce que la mer se rafraîchit, que les dépressions hivernales nous amènent de la houle et des vagues, qu'il faut fuir le littoral. Avec une bonne combinaison pour se protéger du froid, du bon matériel, un encadrement sérieux et une approche prudente, l'automne est une saison idéale pour la pratique du surf. La glisse est donc une activité à laquelle vous n'aviez pas nécessairement pensé pour les vacances de la Toussaint, et pourtant les offres sont nombreuses dans les écoles de surf. Les écoles de surf de Bretagne, elles proposent toutes des formules adaptées, qu'il s'agisse d'initiation ou de perfectionnement, d'enfants, de jeunes adultes, de familles entières. C'est le cas de l'école de surf de Plouarnel dans le Morbihan, qui opère sur un magnifique spot de la presqu'île de Quiberon. C'est aussi le cas de l'école de surf de Bretagne sur le fameux spot de la Torche qui propose des stages de surf la semaine prochaine durant les vacances de la Toussaint. Toujours à la Torche, l'école Rise Up Surf School offre également des formules diverses encadrées par des moniteurs diplômés et il en est de même à Audierne, près de la pointe du Raz. Sur la Manche, Armor Surf School entre le Cap Fréhel et le Cap d'Erquy peut également vous accueillir, tout comme la Ponanf Surf School de Perros-Guirec ou Surf Harmony sur la côte d'Émeraude. Enfin, sur le sud Atlantique, la Pirate Surf School de l'île d'Oléron est également sur le pont pendant les vacances de la Toussaint pour faire découvrir le surf et même le paddle. Alors, sachez que si vous êtes débutant, vous commencerez sans doute avec un longboard, une planche longue et large, et que selon votre forme et votre motivation, il vous faudra de 1 à 3 séances pour vous lever et glisser jusqu'au bord. Toutes les écoles affiliées à la Fédération française de surf garantissent un encadrement par des moniteurs diplômés. Le matériel notamment, les combinaisons qui sont adaptées à votre morphologie sont fournies. Et question tarif, il faut compter environ une trentaine d'euros par jour pour 1h30 à 2h de cours selon les écoles, comprenant la licence fédérale qui offre une assurance. Alors vous n'avez plus qu'à surfer sur le web pour dénicher l'offre qui vous convient avant de surfer sur la vague.
On vous retrouve dans un instant, Jean-Michel, pour nous présenter une navigatrice.
France Bleu, bienvenue à bord.
Et on reste dans le surf avec plusieurs spots de métropole et d'outre-mer qui sont candidats pour accueillir les épreuves des JO de 2024. Parmi eux, celui de la Torche à la pointe du Finistère. Le dossier a été déposé cette semaine. Pour la réponse, il faudra attendre fin 2020 après les JO de Tokyo. Et la bataille va être rude, Roméo Van Maastricht.
Y aura-t-il assez d'hôtels, des vagues assez régulières, les équipements suffisants? Oui et re-oui, les élus du pays bigoudin sont convaincus de la solidité de leur dossier. Katia Graveau, la maire de Saint-Jean-Trolimont.
Vous m'avez demandé pourquoi j'y crois. J'y crois parce qu'on répond à toutes les attentes. Et on répond, oh je vais oser dire, jusqu'à mieux que les autres.
La Bretagne est en compétition face à Biarritz, Lacanau et même Tahiti. Pas de quoi effrayer Stéphanie Barbour, le président de la Ligue de Surf Bretonne.
Plus on a creusé pour avoir un dossier cohérent, plus on s'est rendu compte qu'il y avait une régularité de vagues, une qualité des eaux, plus on creuse, plus on se dit que bah, finalement on y croit et les retours politiques nous font croire en cette chance. Ouais.
Il faut répondre à des normes très précises, notamment en termes d'écologie. Le vice-président de la région, Pierre Pouliquen, promet zéro impact sur ce site naturel.
On vient de parler évidemment de l'environnement, je crois que la candidature de la Torche, elle est exemplaire. On a des atouts meilleurs que les autres, même le département 22, 29, la ville de Rennes, le département 35 a apporté son soutien à la candidature. Je suis fier en fait de la candidature de la Torche.
Reste maintenant à convaincre la population. Plus de 24 000 prospectus ont été distribués dans les boîtes aux lettres du pays bigoudin.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Pour terminer ce magazine, Jean-Michel, vous allez nous présenter Virginie Herriot.
Et oui, je vais évoquer Virginie Herriot. Virginie Herriot, passionnée par la mer, c'est héritière d'une grande fortune. Virginie Herriot est l'une des toutes premières navigatrices à connaître la gloire. Dès 1924, elle collectionne les victoires dans les grandes régates européennes, en Italie, en Espagne, en Finlande, aux Pays-Bas, au Danemark et naturellement en France. En 1928, elle décroche une médaille d'or aux Jeux Olympiques et un titre de championne du monde à bord de son 8 mètres GI L6.
Merci Jean-Michel Guigny. Fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. À très bientôt, au revoir.